Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h10, le retour du week-end des experts, les animaux. Jusqu'à 8h, Laetitia Barlerin m'accompagne et ensuite ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile avec toute l'actualité auto, vos questions auto, bien évidemment, au 32-16. Et on préparera votre itinéraire pour les vacances en voiture avec pas mal d'astuces et puis des incontournables comme Waze, bien évidemment. Laetitia, plein de choses pour cette deuxième partie. On va découvrir une web-série tout à l'heure que vous pouvez retrouver sur YouTube qui s'appelle Au cœur des refuges. On va parler d'oiseaux sauvages qui vont être mal en point dans les Hauts-de-France. Tout à l'heure, ça sera Ratintin, mais auparavant, on va évoquer des moutons un peu particuliers.
Eh oui, des moutons utilisés comme tondeuses de pelouse dans les villes. c'est le projet
c'est
de
mieux que les tondeuses robots. Hein.
Greenship, c'est une start-up qui propose la location de moutons en éco-pâturage. Et elle propose ça aux communes et aux entreprises. Et nous avons avec nous Paul Leteux, qui est fondateur de Greenship. Paul, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Bienvenue. Alors, je ne sais pas si les Parisiens ont vu, en prenant le périphérique, ils ont peut-être remarqué cette année que des moutons noirs paissaient tranquillement sur les pelouses aux abords du périphérique. Voilà, ces moutons, ce sont les vôtres. Alors, comment est né ce projet de location de moutons?
Alors, à l'origine, c'est un terrain en région de Chartres que l'on avait à entretenir.
Oui.
C'est un terrain, comme tout le monde, qu'on entretenait avec la tondeuse. J'ai décidé de la mettre au garage, d'installer trois petits moutons, des moutons de Douessant. Ça s'est très bien passé. Et ensuite, on a eu la demande d'entreprises alentour pour faire ça chez eux. Et c'est ainsi que Greenship est né.
Mais alors, à part la ville de Paris, quelles sont les structures qui font appel à vous? Est-ce que les particuliers peuvent faire appel à vous?
Oui, bien sûr. On travaille à 90% avec des entreprises de la logistique, autant des grands groupes comme L'Oréal, Bosch, ou comme on le citait, la mairie de Paris, des institutions comme les prisons. Récemment, on a installé des petits moutons dans les prisons de Grenoble et de Nanterre.
Oui.
Et on travaille aussi avec quelques particuliers, alors assez restreint parce qu'il faut compter une surface minimum de 3000 m².
Ah oui.
C'est pas donné à tous les particuliers.
Oui, c'est pas le petit jardin devant chez soi, quoi.
Oui. Mais c'est possible.
Mais alors, quels sont, quand vous allez voir ces entreprises et leur proposer les services de vos moutons, quels sont les avantages par rapport à une tondeuse, tout simplement?
Oui. Alors, on retrouve plusieurs intérêts pour chez nos clients. L'intérêt qui prime, évidemment, c'est l'intérêt écologique.
Oui.
Vis-à-vis d'une tondeuse, donc on n'a pas de dégagement de CO2 dans l'atmosphère, pas de bruit, ça c'est plutôt vis-à-vis de l'environnement de travail.
À part un bé de temps en temps.
À part un petit bé.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est sympathique quand on travaille.
Voilà.
Oui, c'est sympathique et ça reste léger à côté du gros bruit d'une tondeuse gênant. Donc ça c'est hyper important. Après, on a un intérêt économique qui est pas négligeable. En moyenne, on fait 25% d'économie chez nos clients.
Par rapport à une tondeuse?
Par rapport à une tondeuse, oui.
Enfin, on a la tondeuse plus la personne qui la passe quand même.
Voilà, c'est ça. Donc là, le coût, il est toujours là. Le coût de la main-d'œuvre est toujours présent. C'est la personne... C'est le berger, exactement. Au lieu de pousser la tondeuse, il va prendre soin des petits moutons. Mais on arrive quand même à réaliser des économies Surtout sur des grandes surfaces.
Mais
gros intérêt sur les grandes surfaces.
Le mouton, il mange quoi? Il mange tout. Il est parce que la tondeuse, on sait exactement à quel niveau
voilà.
Elle tond.
Hein. Elle va tondre partout de la même manière.
De la même manière. Est-ce que le mouton, oui.
Parce qu'on peut pas régler le mouton pour qu'il mange qu'une petite partie de l'herbe, par exemple.
Quel est le résultat de la tonte?
Il peut pas le régler, mais heureusement la nature est bien faite et c'est vrai que les moutons vont se déplacer partout sur la parcelle et manger absolument toute l'herbe qui s'y trouve de manière régulière et toute l'année. Donc ils sont présents sur la parcelle au quotidien, été comme hiver.
Oui.
Et ils vont brouter votre pelouse de manière uniforme. Ça, y a pas aucune.
Et ils vont la fertiliser aussi avec leur crottin.
Oui, on a aussi cet intérêt. On n'a pas parlé. C'est vrai que les crottes donc vont rester sur la parcelle, se dégrader très rapidement, et donc ça permet de réincorporer ce que l'on a subtilisé au sol immédiatement.
En pratique, comment ça se passe? Une entreprise vous appelle, vous mettez des moutons, donc vous faites des installations, vous avez une personne qui les garde 24 heures sur 24, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc, dans un premier temps, on fait un audit. On travaille beaucoup avec des vues aériennes. Ça nous permet d'estimer la surface, la clôture à poser. En fonction, on fait des installations. Donc, on a des personnes dédiées à cela qui installent les clôtures, les abris, les abreuvoirs et ensuite les petits moutons. Nous, on met un mouton pour 1000 mètres carrés de terrain.
Oui.
Pour 10 000 mètres carrés, on peut compter 10 moutons.
Parce qu'en plus, ce sont des petits moutons. Hein. C'est des moutons de Ouessant. Alors, je sais pas si les auditeurs connaissent, c'est le plus petit mouton au monde.
D'accord, c'est le plus petit gabarit.
Voilà, et il est noir, alors noir marron, hein, on dit noir, mais noir marron la laine. Pourquoi vous avez choisi le plus petit mouton au monde?
Déjà parce que c'est très mignon, vous l'avez dit.
C'est vrai.
C'est vraiment agréable à regarder, c'est sympa, il n'y a aucun danger pour l'homme, pour les enfants.
Oui.
Et puis, nous, on y voit plusieurs intérêts dans notre travail parce que ce sont des moutons rustiques, très résistants.
Ah oui, aussi. Aux maladies. D'accord.
Et faciles à manipuler.
Mais je crois que c'était aussi une race en voie de disparition.
Oui, aussi, c'est vrai que ça nous permet, dans le cadre de l'éco-pâturage, de lui redonner un sens. Il était en voie de disparition, il n'en restait plus qu'une centaine il y a quelques années de cela.
Oui.
Et maintenant, on est à 4000 têtes en France, donc on peut estimer qu'il est sorti de la disparition. C'est plutôt satisfaisant.
Bon, Paul, c'est très sympa tout ça, mais ça coûte cher de louer vos moutons pour, paître, je sais pas moi, sur une prairie, une pelouse.
Alors, je peux vous donner une idée de prix pour 3000 mètres carrés, par exemple.
D'accord.
Donc, pour 3000 mètres carrés, 3 moutons, il faudra compter 160 euros par mois.
160 euros par mois pour 3 moutons sur 3000 mètres carrés, ça va?
Oui, mais ça va.
Pas
pour
trop
une
cher.
Entreprise, c'est moins cher
ça
que
va.
D'avoir... Et puis, je pense qu'en plus, pour les quand c'est des pelouses autour de l'entreprise et qu'il y a les salariés là qui sont dans leur bureau, je pense que ça les apaise de regarder les moutons. Et puis ça leur fait une pause. Ils vont voir les moutons. Je trouve que c'est très bien.
Paul, est-ce qu'ensuite on peut les garder pour le méchoui?
Oh non.
Ah non, c'est triste, non.
Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, vos moutons?
Parce que ça aurait été sympa, barbecue. Non, je plaisante, hein, Paul, bien sûr, on rigole. Hein.
Non, l'idée, c'est que vraiment, les moutons vont passer toute leur vie sur la parcelle.
Oui.
Ils vont y donner naissance pour les brebis, ils vont se reproduire, on va venir les tondre, et ils vont aussi... finir leur vie tranquillement sur la parcelle, leur retraite.
D'accord.
Un mouton de naissance, sa vie, une dizaine d'années.
D'accord.
Ah, très bien, parfait.
Bon, vous nous rassurez.
Oui, c'est très bien.
Paul.
Et puis en plus, je pense que ça peut avoir un autre intérêt, Laetitia, pour s'endormir, parce qu'on sait très bien que compter les moutons, C'est quelque chose
Surtout au bureau, qui peut
bercer. Et c'est vrai que, voilà, on est un peu fatigué au bureau, on compte les boutons, et grâce à vous, voilà. Paul, on peut s'endormir.
Voilà, si votre,
ça, c'est cool.
Si votre chef vous dit, mais pourquoi vous êtes, vous faites la sieste au bureau, ben vous dites, ben, parce que je regardais les moutons par la fenêtre.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup.
Merci, Paul.
Merci à vous.
Merci. Merci, au revoir.
Et tu sais, et puis pour le méchoui, c'était pour rire, hein. Quoique.
Oh,
allez, on revient dans un instant, Laetitia. On revient dans une minute et nous allons parler des oiseaux sauvages qui sont dans le souci, comme on dit au
Québec.
Dans
le souci, oui.
Dans les Hauts-de-France.
Oui.
On en parle avec
après
notre
invité.
Après
la fermeture d'un centre de soins.
Voilà. Et puis 3216, animaux@rmc.fr ou bien via Direct Studio. Tiens, vous avez déjà vu des moutons paître, peut-être, eh bien voilà, un endroit un peu particulier parce que je pense qu'il y a l'initiative de Paul qu'on a écouté, mais il y en a d'autres en France, hein, comme ça. N'hésitez pas à nous appeler pour témoigner aussi. On attend justement vos appels. À tout de suite, c'est RMC.
RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h21, c'est RMC. Le week-end des experts, les animaux. Laetitia, la météo et les infos arrivent. Ça sera dans quelques instants. Et puis, tout à l'heure, on découvrira une web-série sur la vie des refuges qui est sur YouTube. Hein. Il y a une page YouTube
oui,
où
là.
On retrouve...
Et, ou sur Facebook aussi.
Sur Facebook
et
aussi.
Et c'est un peu une télé-réalité dans les refuges.
Tout à fait. Tout à fait. Qui raconte un peu le quotidien hein,
voilà,
des refuges de la SPA.
Exact. Pas de la SPA. Je sais pas si c'est la SPA.
Bah,
mais
je suis allé voir.
Voilà.
J'ai vu qu'il y avait des refuges, en tout cas, pas,
oui.
Peut-être pas partout, mais
voilà.
J'ai vu des refuges de la SPA. Et voilà, ça sera tout à l'heure qu'on découvrira ça avec le réalisateur de cette web série, le 3216 animaux@rmc.fr par mail ou bien via l'appli RMC Direct Studio. N'hésitez pas à nous appeler, les amis. Laetitia, dans l'immédiat, on va s'intéresser aux oiseaux sauvages dans les Hauts-de-France. Qui va les soigner? Parce que visiblement, on a eu une fermeture de l'association Oiseaux, qui était le seul centre de soins des animaux sauvages de la région.
En tout cas, elle va, il semblerait qu'elle, que ce
qu'elle
centre
soit
de soins soit très menacé.
Aïe,
nous
aïe,
avons
aïe,
avec
aïe.
Nous le docteur Christophe Blancaert, qui est vétérinaire à Boulogne-sur-Mer, bien sûr, dans les Hauts-de-France. Christophe, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, en tant que praticien, il vous arrive qu'on vous amène un oiseau sauvage blessé, que vous soignez, et confiez au seul centre de soins des animaux sauvages de la région, donc l'association Oiseaux. Et là, c'est vrai que vous passez un coup de gueule, car ce centre est menacé.
Et oui, effectivement, oui. Le centre, qui est un centre qui à la fois soigne les oiseaux, mais les observe, fait beaucoup de pédagogie autour de ces animaux de la faune sauvage et aussi des petits mammifères, hein, actuellement est menacé et est en train de jeter l'éponge, puisque ben, depuis plusieurs mois, le Conseil régional des Hauts-de-France a retardé le vote de la subvention qui était traditionnellement allouée.
Oui.
Du fait que ben on se retrouve avec une impossibilité de payer les loyers et puis de continuer l'activité et de payer aussi les permanents, les salariés, puisqu'il y avait quand même 2 à 3 salariés permanents, parce qu'il faut nourrir tous ces petits oiseaux 8 fois
oui.
par jour.
24 heures sur 24, les animaux sauvages. Ben oui, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que les centres de soins, ils vivent de dons. Les centres de soins d'animaux sauvages, ils vivent de dons et de subventions.
Absolument. Et puis, bon, ils sont vraiment indispensables à la fois à tous les particuliers qui trouvent ces animaux, qui les amènent soit directement au centre, soit chez les vétérinaires, parce qu'en fait, on est dans la grande région Nord-Hauts-de-France assez structurée. Donc, il y a un réseau de vétérinaires qui s'occupent de la faune sauvage, qui les soignent en première intention, puis qui ensuite les transfèrent pour le maintien des soins dans ce centre.
Oui, et puis la réadaptation à la vie, à la nature, et puis le fait de les relâcher après dans la nature.
Voilà, le but c'était de les relâcher, et puis il y a un succès quand même important, puisque quasiment un oiseau sur deux est relâché. C'était quand même très efficace.
Mais vous savez, c'est pas une première. En février dernier, nous parlions aussi d'un autre centre de soins qui s'appelle Volet de Piaf en Bretagne, qui a fermé ses portes faute de subvention. Il vient de réouvrir quelques mois plus tard grâce aux dons de ses abonnés et encore, on ne sait pas pour combien de temps. Dans votre région, il y a un autre centre aussi qui a fermé. C'est la clinique des bébés Foc de la baie de Somme, c'est quand même incroyable. Ça veut dire que tous les centres de soins vont fermer les uns après les autres.
Oui, on se demande si ce n'est pas un choix délibéré des régions qui, sous prétexte d'économie d'ampleur ou sous la pression, je ne saurais incriminer certains lobbies. Voilà, ça hypothèque complètement l'avenir de la petite faune locale. C'est une richesse culturelle, c'est un patrimoine que nous devrions transmettre. Et les régions devraient être sensibles à ce discours. Et apparemment, là, depuis quelques temps, tout le monde passe à la trappe.
Ce qui est quand même surprenant, c'est que les centres de soins sont d'utilité publique. Oui. On nous dit bien, la loi nous dit bien, et ça, j'en parlais tout à l'heure, parce que nous avions Marie-Rose avec nous qui avait un bébé hibou, elle savait pas quoi en faire. Donc je dis, de toute façon, la loi impose d'amener ce bébé hibou dans un centre de soins et de ne pas le garder, puisque sinon c'est un délit. Or, les centres de soins ferment.
C'est paradoxal parce que c'est un article du Code de l'environnement, c'est le L411-1 qui prévoit que tout citoyen qui découvre un animal en détresse doit pouvoir l'amener dans un centre de soins. Et à la fin, on n'a plus de centre de soins.
Il faudrait presque changer la législation pour que justement ces centres de soins soient subventionnés vraiment par l'État.
Bien sûr.
Parce que c'est un service. Voilà,
c'est pour ça qu'il est lancé, entre autres, une pétition qui permet d'interpeller d'abord M. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, pour lui faire prendre conscience du problème. Et puis également les décideurs encore plus haut et le nouveau ministre de l'Environnement, par exemple.
Pourquoi pas. Et vous avez aussi vous proposez un financement associatif.
Oui, donc il y a un financement participatif qui est prévu et donc on a un relais, on pourra peut-être laisser l'adresse sur Helloasso, il y a donc un crowdfunding qui est lancé et puis il y a plein d'autres idées, on essaye de trouver d'autres solutions.
Peut-être des mécènes,
donc il y avait déjà des mécènes qui, comme la Fondation EDF, Nature et Découverte, le Crédit Agricole, qui soutenaient l'association Oiseau. Bon, là, on est en train de réfléchir à d'autres solutions. Moi-même, dans ma structure, j'ai lancé un arrondi solidaire, par exemple, pour essayer d'apporter un petit peu de fonds. Mmh. Et puis on va voir si peut-être d'autres cabinets vétérinaires veulent suivre. Apparemment, il y a déjà du relais. Le but, c'est d'essayer de tout faire pour sauver ce centre et puis de pouvoir prendre en charge tous ces animaux. Actuellement, il y a encore 200 animaux qui sont toujours en soins. J'y suis allé la semaine dernière et puis on a, un gros volume. Et d'année en année, les charges ont augmenté puisque maintenant, on arrive à 1200 animaux qui sont pris en charge tous les ans. Il y a eu plus de 5000 personnes qui ont déposé des animaux ces 4 dernières années.
Ah oui.
Une très forte activité.
Et qu'est-ce qu'ils vont venir si le centre ferme? Où placer les animaux sauvages?
Il y a des centres à proximité, il n'y en a plus. Donc au nord de Paris, en fait, il n'y a plus qu'un seul centre dans l'Aisne après celui de Oisy, du Pas-de-Calais.
Ça fait pas beaucoup.
On restait en bord de route, dans les cheminées, accrochés aux barbelés. Parce que finalement, toutes les causes d'arrivée dans ces centres, ce sont des conséquences des activités humaines.
Christophe, merci en tout cas pour votre témoignage. Merci beaucoup.
Merci Christophe. Merci. Je mettrai sur Facebook le lien pour l'association Oiseau si vous voulez. Bien entendu, d'abord signer la pétition la législation
faire
change.
Faire écho de tout ça.
Voilà, faire écho et puis peut-être participer à ce financement, aider cette association parce que, comme on vient de dire, et ben dans les Hauts-de-France, il n'y aura plus de centre de soins des animaux sauvages.
Laetitia, on revient dans un instant. On essaie de joindre Rintintin, Laetitia. Vous inquiétez pas, mais pour l'instant.
Il garde les moutons.
Mais Rintintin est sur messagerie, parce que donc c'est embêtant. Et...
Mais je vous dis, il garde les moutons.
Mais on croise les doigts. À tout de suite, c'était RMC. On revient après la météo et les infos.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos Animaux. François Sorel, Laetitia Barlera.
Le retour du week-end des experts, les animaux. À partir de 8h, c'est l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoint. Avec au menu de notre rendez-vous auto l'essai de la semaine, ça sera la BMW 530e qui est une hybride rechargeable. Le bon plan auto, comment protéger sa voiture du sable et du sel. C'est de saison, on va dire, et d'actualité. Et puis en deuxième partie, on vous donnera un maximum de conseils pour bien préparer votre itinéraire pour les vacances. Avec le site Autoroute Eco qui vous permet de calculer et de faire des économies. Vous savez que le péage des autoroutes, ça coûte une fortune. Eh bien, il existe des petites astuces pour faire baisser la note. On évoquera Waze aussi et pas mal d'autres services qui peuvent nous faciliter la vie lorsqu'on part en vacances en voiture. Ce sera à partir de 8h, donc sur RMC. Laetitia, Rintintin est toujours sur messagerie. On désespère pas. On a essayé de lui envoyer un fax, là. Mais pour l'instant, je ne sais pas si Rintintin lit le français. Cela dit, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il était originaire de France. Donc, on peut peut-être imaginer que...
Il est français.
Enfin, oui. On verra ça dans quelques instants. C'est dommage parce que Paul avait prévu la petite musique de Rintintin et tout. On avait ça fait tout bien. Il n'y avait pas de soucis. Bon, enfin bon. Pour l'instant, Laetitia, on va parler de cette web-série documentaire Au cœur des refuges.
Oui, et nous sommes avec Stéphane Garetti, qui est réalisateur de cette web-série. Stéphane, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc vous avez eu l'idée de cette web-série documentaire sur les animaux de refuge, et on commence quand même à parler de vous sur les réseaux sociaux parce que vous êtes suivi par 22 000 abonnés sur Facebook et vous comptabilisez 2 millions de vues déjà. C'est incroyable. Alors, comment est née l'idée d'une web-série sur les refuges ?
Alors l'idée, elle m'est venue en fait grâce à l'adoption de ma chienne qui s'appelle Élé et que j'ai adoptée à la SPA de Lorraine en fait.
Oui.
Et j'avais pris le temps de filmer avec mon smartphone en fait tout simplement l'adoption et j'avais posté ça sur ma page Facebook.
Oui.
Et ça avait fait un petit buzz et ça avait dépassé le million de vues. Et j'avais reçu pas mal de messages, pas mal de commentaires de personnes qui me disaient que... que c'était super et qu'ils allaient se diriger eux-mêmes vers les refuges et plutôt adopter que d'acheter en animalerie.
C'est génial, ça.
Donc voilà, ouais, je me suis dit, mais c'est une super idée, c'est pour sensibiliser les gens, c'est un bon moyen.
Et donc, vous avez pris votre petite caméra et vous êtes rendu dans un refuge, c'est ça ?
Exactement, là, j'ai commencé à travailler en partenariat avec deux refuges près de chez moi à Nancy.
Oui.
Et donc j'ai filmé le quotidien en fait des refuges et surtout j'ai essayé de mettre en avant les animaux à chaque fois quoi, tous les animaux que ce soit les chats, les chiens, les lapins, les naques pour faire connaître aux gens ces animaux et puis un peu casser l'image des refuges qui est souvent négative.
Oui. C'est vrai.
Les gens ils s'imaginent que c'est des mouroirs, c'est des prisons.
Oui.
Alors,
ah oui,
ça a beaucoup évolué.
Ou que c'est des animaux malades ou à problème de comportement, ce qui est faux.
Et exactement, voilà. Et c'est pour montrer la réalité des choses et puis donner envie aux gens d'aller dans les refuges, qu'ils prennent la peine d'y aller pour visiter, pour faire connaissance avec tous ces animaux. Et pourquoi pas adopter ? Le but, c'est quand même de sensibiliser les gens à l'adoption.
Vrai que, alors, ce qui est bien, c'est qu'on suit vraiment le quotidien donc de ces refuges, le travail des bénévoles, le destin des animaux. Alors, on pleure beaucoup aussi parce qu'il y a beaucoup d'émotions.
Oui,
on rit. Oh, si on pleure un peu. Mais moi, je suis très émotive.
Non,
vous savez,
l'émotion n'est pas négative.
Voilà.
Oui,
on rit aussi.
Mais c'est un peu les gens vont avoir peur de rire.
Non, du tout, parce que, alors justement, on rit beaucoup. Parce que alors, les bénévoles, ils sont vraiment, ils sont passionnés. Donc c'est en fin de compte, on a l'impression de suivre, voyez, une fiction. Alors c'est pas la fiction de TF1, mais
c'est la réalité.
Il y a des rebondissements. c'est la réalité. Comment concevez-vous ces histoires ? Parce que vraiment, c'est un travail qui ressemble beaucoup à d'autres séries documentaires que j'ai vues, où c'est, vous savez, les pompiers, leur vie
en direct.
Voilà, je cherchais le mot. Ou les vétérinaires, leur vie en direct, ça ressemble un peu à ça. Comment travaillez-vous ?
Tout simplement, en fait. Moi, on essaie de se mettre d'accord avec les refuges pour qu'ils me préviennent à l'avance dès qu'il y a une intervention ou une histoire particulière.
Oui.
Et après, bon, moi, je vais chez eux, je filme toute l'histoire, tout le déroulement. Et j'essaie de retranscrire ça au mieux à travers le montage et voilà quoi. Mais comme vous dites, j'essaie vraiment de faire en sorte que les gens soient immergés en fait dans le refuge, comme s'ils étaient avec les bénévoles avec nous en fait.
Voilà. Et comment réagissent les bénévoles qui sont en fin de compte des acteurs malgré eux de cette série, les bénévoles et même les adoptants, ils vous disent pas non je veux pas être filmé.
Oui, il y en a certains qui sont timides, qui veulent pas trop passer devant la caméra, mais en général ils sont tous enthousiastes et c'est vrai qu'ils sont leur but aussi c'est de faire connaître les refuges, les animaux, leurs petits pensionnaires et de faire en sorte que voilà les gens viennent les voir pour découvrir leurs animaux donc voilà c'est le but c'est de travailler tous ensemble en fait voilà.
C'est une très bonne initiative. Est-ce que vous avez été voir, je sais pas, la SPA par exemple ou la Confédération des SPA pour leur proposer vos services ?
Alors, moi, je suis déjà en contact avec la Confédération des SPA, parce que les refuges avec qui je bosse font partie de la Confédération des SPA. La SPA de Paris, j'ai été aussi en contact avec.
Oui.
Donc voilà.
C'est pour promouvoir leur
travail.
Leur travail, oui. C'est vachement bien, parce qu'en plus, vous montrez des animaux qu'on a envie d'adopter.
D'adopter.
Et oui. D'une manière très, c'est quand même original.
Ben c'est gentil, merci. Le but, c'est ça, c'est de montrer que ces animaux, ils sont comme les autres, et c'est vrai que il y a des adoptions qui ont été faites grâce à la série, parce que les gens ont eu un coup de cœur sur tel animal et ça a favorisé les adoptions. Donc c'est super.
D'accord.
Ah bon, vous avez terminé la saison 1, vous demandez un petit coup de pouce, c'est ça, pour la saison 2 ?
Ouais. On a fait la saison 1 et 2, et là,
je suis en train de préparer
la saison 3. Voilà, exactement, ouais.
Donc,
on a lancé un financement participatif sur le pot commun.
Oui.
Qui va nous permettre de financer la série, sachant que moi je fais ça bénévolement.
Et oui.
C'est vraiment.
Mais ça doit vous prendre du temps.
Mais Stéphane, il faut aussi aller voir la SPA, la Confédération des SPA, et peut-être une production, une boîte de prod, comme on dit, télé.
Oui, là ça serait génial.
Bon, en tout cas, on lance l'appel.
Ah, attendez, on lance l'appel parce que il y a du potentiel, comme on dit.
Ah, c'est gentil, merci beaucoup.
Voilà, chaque épisode fait 24 minutes à retrouver donc soit sur la page Facebook ou sur la page YouTube, là j'y suis.
Voilà.
Sur Mirabel TV aussi. Oui, Mirabel TV qui est une chaîne télé locale en fait qui est partenaire de l'émission. Voilà.
Ah, Mirabel, c'est Lorrain.
Voilà, bah exactement, bah oui, la Mirabel, c'est la Lorraine.
Voilà. Donc Mirabel TV, Facebook ou YouTube, et on mettra les liens justement sur notre page Facebook.
Merci beaucoup.
Merci Stéphane.
Merci, bonne journée.
Bonne journée.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, belle initiative de la part de Stéphane. Il est 8h-20, c'est RMC. Laetitia, on va revenir dans un instant avec Nat qui sera là. On va parler de chauves-souris avec Nat.
Oui, parce qu'on s'inquiète de la baisse des populations de chauves-souris.
Mais visiblement chez Nat, c'est plutôt le contraire.
Ah, enfin une bonne nouvelle.
Enfin une bonne nouvelle. Et puis je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 8h sur RMC. Vous voulez joindre Laetitia Barlerin, poser vos questions animaux. Allez-y dès maintenant. 3216 animaux@rmc.fr par mail ou bien via l'appli RMC Direct Studio. On attend vos témoignages. Si vous nous joignez par mail ou par Direct Studio, laissez-nous s'il vous plaît votre numéro de téléphone. On pourrait vous rappeler dans les minutes qui suivent avant 8h. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC 6h-8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin, notre veto qui sait...
Et le veto.
Et tout à fait, Thierry. Notez qu'à partir de 8h, juste après la météo des infos, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, tout à l'heure, nous parlions de chauves-souris.
Oui, exactement.
Avec un auditeur qui se plaignait justement d'en voir moins.
Oui, avec Pascal qui envoyait moins.
Et là, nous avons Nat au 32-16. Bonjour, Nat.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue sur RMC, Nat.
Merci de me prendre à l'antenne.
Alors, racontez-nous, dites-nous, parce que vous, tout à l'heure, vous avez entendu donc le témoignage de notre auditeur précédent, qui justement voilà se plaignait du fait de voir de moins en moins
de pipistrelles.
De pipistrelles, donc de chauves-souris. Vous, c'est l'inverse plutôt.
Oui. Depuis quelques années, là, je note une augmentation assez sensible des populations de chauves-souris.
Vous êtes où ?
Oui, en Charente, plutôt côté Charente-Limousine.
Oui.
Et effectivement, on voit ici, moi depuis quelques années, effectivement, quand je suis arrivé en Charente, je n'en voyais pratiquement pas.
Oui.
Et depuis environ 2 ans, effectivement, je vois une petite augmentation plutôt significative de ce nombre de chauves-souris. Alors effectivement, je suis dans un petit lieu dit.
Oui.
relativement calme avec des anciens bâtiments.
Oui, ce que j'allais vous dire. Vous avez des anciens bâtiments, oui. Parce que les nouveaux bâtiments avec leur surface lisse, sans vraiment des coins ou des fissures, etc., n'accueillent pas les chauves-souris, parce que les chauves-souris ont besoin justement. Vous savez, normalement, elles se reproduisent dans les falaises où il y a des fissures comme ça. C'est pour ça qu'on les retrouve aussi derrière les volets, par exemple. Et il y a beaucoup de maisons maintenant qui n'ont plus de volets, où ils sont des volets roulants. Alors les volets roulants, ça c'est la mort des chauves-souris.
Oui, complètement, oui.
Donc, et là, vous avez une habitation qui est ancienne.
Moi, c'est, l'habitation principale n'est pas forcément très ancienne, mais j'ai des dépendances qui, elles, le sont et qui sont tout à fait propices à leur installation.
Oui.
Et dans mon petit hameau, c'est beaucoup de bâtiments type fermette avec des granges, des choses comme ça qui effectivement leur offre un habitat assez intéressant.
Et est-ce que vous avez remarqué qu'il y a moins de moustiques?
Moins de moustiques, c'est pas si significatif que ça, je dirais.
Ah oui.
Malheureusement.
Parce que ce sont vraiment des mangeurs de moustiques et de tous les petits insectes qui sont autour de vous, hein.
Alors effectivement, je ne sais pas trop si elles font. Si elle consomme énormément de papillons, parce que je sais que l'an dernier j'ai eu une grosse attaque de la pyrale du buis.
Ah oui, qu'on évoque souvent avec Patrick Mulan, qui est dramatique d'ailleurs.
Ah, je sais pas si elle. Oui.
Et cette année là, bon, j'ai mis un petit piège à phéromones pour éviter d'être envahi une fois de plus. Mais c'est vrai que cette année, j'ai l'air d'être plus tranquille de ce côté-là.
D'accord. En tout cas, merci Nat pour ce témoignage. C'est très sympa de nous avoir appelé.
Et de nous dire quand même, un bon espoir. Les chauves-souris augmentent, en tout cas dans votre région, dans votre localité. Si vous voulez vraiment accueillir les chauves-souris, d'abord, ne les dérangez pas si elles se mettent derrière les volets, parce que ça, elles le font très souvent l'été. Vous en faites pas, elles vont partir en fin août.
Oui.
Donc, ne pas les déranger. Et sinon, mettre des nids à chauves-souris. Et vous en aurez, par exemple, sur le site de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, ils vendent des nids justement pour chauves-souris à mettre comme ça sur les murs de votre maison.
Parfait, merci beaucoup Nat. Laetitia, nous accueillons maintenant Tamara qui est avec nous. Bonjour Tamara.
Bonjour François, bonjour Laetitia.
Bonjour
fidèle auditrice d'RMC Tamara.
Bonjour.
Merci beaucoup, oui exactement, j'adore les quatre émissions.
Oui.
Alors moi j'ai deux questions complètement différentes.
Oui.
La première question, j'ai appris grâce à un autre éditeur juste avant 7h que l'émission des animaux allait s'arrêter au mois de septembre. Donc Laetitia, c'est bien dommage et j'espère pouvoir vous trouver sur une autre radio. Donc est-ce que vous avez une autre radio sur laquelle on pourra vous écouter et vous poser des questions?
Oui, alors elle a créé une radio qui s'appelle Radio La Tiatia.
Écoutez Tamara, pour l'instant, vous avez raison, l'émission se termine fin août. La dernière c'est le 20 août. Donc je serai là quand même cet été, voilà, pour vous rassurer. Concernant, si vous voulez me suivre, il y a déjà la télé. Vous avez tous les mercredis dans la quotidienne sur France 5, j'interviens à partir je repars pour une nouvelle saison au mois de septembre et
c'est entre midi et deux, hein, c'est ça.
Voilà, à 11h moins le quart, ça commence à 11h moins le quart jusqu'à 13h, donc la quotidienne sur France 5. Et sinon, je ferai partie aussi d'un nouveau programme qui va passer sur TF1 le dimanche, qui s'appelle La vie secrète des chats. Et a priori, ça devrait être programmé en septembre, mais je n'en sais pas plus.
On le dira.
Oui, mais on ne pourra pas vous poser des questions comme là. Donc c'est...
Alors, vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, Laetitia Barlera Miss Veto. Et vous pouvez
me laisser. Sur Twitter aussi.
Et sur Twitter. Et puis sur ma page Facebook, vous, en passant, vous marquez. Vous cliquez sur j'aime, bien sûr, comme on dit. Et puis, vous pouvez me poser vos questions. Et je prendrai le temps de répondre à vos questions.
D'accord, c'est gentil. Et donc, ma deuxième question, donc moi, je suis non-voyante, hein, comme vous le savez. J'ai eu un chien guide qui est à la retraite chez ma sœur.
Oui. Génial. Ça reste dans la famille.
Voilà, exactement. On en avait déjà discuté sur une autre émission il y a déjà un bout de temps.
Oui.
Et la seule chose, c'est que moi, je vais avoir probablement, en principe, un nouveau chien guide d'ici la fin de l'année.
Oui.
Mais j'avais pas très bien vécu la remise, mais après, quand Sherpa était à la maison, puisque pendant 3 semaines, Sherpa m'avait vomi de la bile tous les matins. Donc je sais que c'est un signe de stress, enfin il était assez stressé. Le problème de nos chiens guides, c'est qu'on est un peu la troisième main et nos chiens guides sont quand même assez perturbés quand on les récupère.
Oui, parce qu'ils changent de maître.
Eh ben oui, ils changent de maître, ils ont la famille d'accueil, puis l'éducateur et ensuite nous. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant pour le chien et pour nous, ben... On ne sait pas toujours comment.
Oui. Alors,
c'est compliqué, quoi. Et j'aimerais bien ne pas revivre ce même épisode.
Et bien sûr.
C'est vrai, c'est une bonne question parce que faut savoir que le chien guide passe. Oui, il a 3 mètres différents en fin de compte. Vous savez que d'abord, il est confié à 2 mois à une famille d'accueil qui le garde jusqu'à 1 an. Donc le chiot s'identifie à cette famille, hein, enfin à la personne qui s'occupe de lui pendant tout ce laps de temps. Ensuite, la famille d'accueil rend le chien à l'école. Et là, il est suivi par un éducateur canin qui le forme pendant plusieurs mois. Et après, il arrive voilà dans la famille, enfin chez la personne non-voyante qui va être son maître. Donc, ça fait 3 mètres quelque part différents en très peu de temps, en 2 ans. Et ça peut perturber, surtout les premières semaines. C'est vrai, Tamara. Alors, moi, ce que je conseille pour cette période qui est un peu difficile de trouver ses marques chez vous, parce qu'il sort de l'école. Alors, il a très bien appris son métier, mais il se retrouve chez vous. Il est un peu perdu parce qu'il doit... construire un lien avec vous et aussi s'habituer à ce nouvel environnement, des nouvelles habitudes, des nouveaux rituels. Dans les premières semaines, ce que vous pouvez faire, Tamara, c'est d'abord lui mettre un collier de phéromones apaisantes. Ça marche pas mal pour justement ce changement brutal d'activité et de maison et de maître. Vous pouvez aussi, moi ce que je prescris, c'est des compléments alimentaires anxiolytiques. Il en existe. Il en existe à base de caséine de lait modifiée. Il en existe à base de dérivés de thé vert. Et oui, ça agit aussi au niveau du cerveau. Ça apaise le chien. Donc, demandez à votre vétérinaire de vous prescrire des compléments alimentaires anxiolytiques qui vont apaiser le chien. Des phéromones apaisantes et puis je pense qu'avec tout l'amour que vous aurez pour lui, il va très vite sentir que c'est vous maintenant sa maîtresse. Il va être rassuré. Ce qu'il a besoin, c'est d'être chéri par vous et puis de vous faire plaisir. Vous allez voir que en fin de compte, c'est son travail entre guillemets. C'est vrai que c'est péjoratif quand on parle de travail. On se dit oh ces pauvres chiens, ils travaillent. Moi je l'entends dans la rue. Non, ils travaillent pas. Ils font plaisir à leur maître parce que ces chiens là adorent faire plaisir et se rendre utile.
Sûr,
et alors là, vous assistez toute la journée, pour eux, c'est un grand plaisir. Et ils savent très bien qu'ils ont des moments où ils sont lâchés, où voilà, ils peuvent décompresser, parce que c'est quand même beaucoup de responsabilité pour un chien guide, hein, quand même, de travailler.
Ce dévouement, là, comme ça, c'est
incroyable. Ouais. Bien sûr. Mais vous savez, je pense que ces chiens qui sont 24 heures sur 24 avec leur maître sont bien plus heureux que certains chiens qui ne voient leur maître que le matin et le soir. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus être critique sur ces chiens-là. Bien au contraire.
Tamara, on vous embrasse et merci de votre fidélité. Evelyne est avec nous au 32-16. Ça faisait un moment, Laetitia, qu'on n'avait pas parlé de Renardo.
De Renardo, ouais. De petit renard.
Et
oui,
bien voilà.
C'est vrai.
Et ça va être le cas avec Evelyne. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour à tous les deux. Bonjour Laetitia.
Bienvenue.
Merci. Voilà, j'ai un renardo qui vient à la maison tous les jours.
Ah bon ?
Le matin et le soir. Le matin, j'ouvre les volets, il est là en train d'attendre. Je lui donne à manger et je ne sais que trop que lui donner à manger. Actuellement, je lui donne des pêches, des abricots, de la tomate, de la pomme, des céréales aussi. Je lui donne un peu de viande. Alors, parfois crue, parfois cuite, que puis-je lui donner comme viande?
Mais quelle taille il a, Evelyne, ce Renardo?
Il est petit, pas minuscule. Il a 40 centimètres, la queue comprise.
Ah
c'est
oui,
vraiment
oui.
un Renardo, c'est vraiment.
Oui, il est petit, oui, il n'a plus sa maman qui est peut-être.
Alors, c'est la question que je me pose. Oui, il a de beaux poils, vu de loin, parce que j'arrive à m'approcher à 2 mètres de lui, voire 1 mètre parfois.
Ouais. Ah oui,
wow.
Petit à petit, on dirait qu'il. Ça s'apprivoise, c'est peut-être un bien grand mot.
Oui, mais ça, les renards s'apprivoisent très, très bien. Et surtout quand ils sont jeunes. Enfin, je vous déconseille quand même.
Ah.
Pourquoi?
Alors, parce que c'est... Pour quelle raison? Comment puis-je éventuellement essayer de l'apprivoiser? Et y a-t-il un risque qu'il ait la rage?
Non, bah, s'il n'a pas de comportement anormal, comme de l'agressivité, par exemple, il n'a pas la rage. Et puis, il faut savoir que la rage a été éradiquée en France. Hein. Alors, c'est vrai que c'était la rage vulpine, la rage des renards, et on a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait plus la rage en France grâce à la vaccination des renards. Et la vaccination des chiens et des chats, bien entendu. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus.
Qu'est-ce qu'il faut faire, Laetitia?
Mais je vous déconseille. Pourquoi je vous déconseille de l'apprivoiser? Bon, d'abord, bien sûr, c'est interdit de maintenir un animal sauvage chez soi.
C'est pas le cas, là.
Ce qui n'est pas le cas parce qu'il est libre.
Il vient de son propre chef et il est en liberté.
Il cherche à manger.
Oui, il cherche à manger, tout à fait. Il attend. Et je lui donne à boire. Alors, je lui donne du lait. Est-ce que du lait, ça...
Non. Alors, on va arrêter les fruits, les légumes, les céréales.
Qu'est-ce que ça mange un renard dans la nature?
Un renard, c'est un prédateur. Donc, c'est un carnivore. D'accord. Alors, il peut manger des fruits dans la nature, ce qui est, en complément. Mais c'est quand même un carnivore. Alors, pourquoi je vous déconseille de l'apprivoiser? Parce que si vous l'apprivoisez, premièrement, vos voisins qui ont des poules, ils vont pas être contents. Deuxièmement, c'est un renard...
Il va faire un carnage. Le poulet rôti du dimanche.
Non, mais c'est surtout qu'il n'aura plus peur de l'homme.
Ah.
Donc, il va pas se méfier des chasseurs.
D'accord. Donc, oui, bien sûr. Et oui, parce qu'il va croire que tout le monde est gentil.
Voilà. Donc, c'est un peu le condamné.
Oui.
Voilà, donc c'est pour ça, Evelyne, les chasseurs n'apprécient pas forcément
les renards.
Donc, si vous voulez qu'il ait la chance d'échapper à des chasseurs, il vaut mieux pas l'apprivoiser. Il faut qu'il garde son instinct sauvage de peur de l'homme.
Oui.
Pour éviter justement.
Pour justement se préserver. L'homme.
Et concernant l'alimentation, normalement, mais vous pouvez lui donner croquettes pour chat.
Roquette pour chat, ça marche?
Ça marche.
Evelyne, merci pour votre appel et on vous souhaite un bon dimanche.
Évitez le plus possible de contact avec lui.
Oui.
Regardez-le, observez-le de votre fenêtre si vous voulez. Ne l'apprivoisez pas, je vous en supplie.
Laetitia, regardez, il est apprivoisé, il est tout gentil. Il est là, tout doux, comme un petit Ronaldo.
Et
non pas un Ronaldo, parce que Jean-Luc, lui, le foot, il s'en fout complètement.
Zorro. Renard rusé qui fait sa loi. Vainqueur, tu les achètes.
C'est dommage parce que vous avez raté. Vous avez raté Rintintin. Non, parce que c'est nous qui avons raté Rintintin.
Nous, on a raté Rintintin.
Rintintin était sur messagerie ce matin.
J'aurais dû appeler Lassie. Peut-être que Lassie aurait répondu.
Ah oui, c'est sûr. Enfin, Lassie, c'est plutôt Christian Pessé, en général.
Je me disais, mais pourquoi? Parce que, quand même, Christian Pessé n'est pas poilu comme la scie.
Non, c'était la scie.
Je vais vous laisser. Hein. Parce que si vous parlez de la vie privée des gens qui font la radio.
Oui, c'est vrai.
Ça risque d'être gênant.
On se retrouve dimanche prochain, Laetitia.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous embrasse à dimanche.
Alors, je ne sais pas dans quel état je serai dimanche prochain. Entre 6h et 8h, parce qu'on sera en direct. Ça sera juste après le Grand Rush.
Je vous offrirai plein de café.
Ah oui, ça, je pense qu'il va falloir faire des.
Mais que du café. Hein.
Ah, pas
de.
Par intraveineux, s'il vous plaît. À dimanche prochain, Laetitia.
À dimanche.
Et dans un instant, vous l'avez remarqué, c'est le renard de l'automobile. El Renardo del Auto. On l'appelle comme ça. C'est Jean-Luc Moreau. En plus, ça arrive. Dans un instant, Jean-Luc.
Oui, Zorro, ça rime avec auto en plus.
En plus, c'est vrai. Après la météo et les infos, tout de suite, c'est RMC.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.